La Bible, parfum de scandale, une émission produite par Radio FM+ et présentée par Babette Soulier-Laporte et Ingrid Pratt.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio FM+, nous voici donc avec Ingrid pour répondre à mes questions et Yann qui gentiment
s'occupe de la technique.
Et voilà, pour parler d'un sujet qui entre dans le cadre de la Bible, un farfan scandale, point d'interrogation, et qui s'attaque à un sujet, voilà, vous comprenez qu'on s'est peut-être attaqué un peu plus gros que nous, mais qu'on a intitulé « Foi et science ». Pas religion et science, mais foi et science, voilà. Et donc, on va se baser pour... Donc, si vous voulez chercher le texte pendant qu'on fait une petite introduction, c'est le texte d'Exode, chapitre 14, versets 15 à 31. C'est le passage dit de la mer Rouge, voilà, où la mer s'ouvre pour laisser passer le peuple d'Israël. Donc, c'est un épisode célèbre où on voit Dieu sous forme de nuée et de feu. Ouais. Alors, j'ai pas très bien compris si c'était nuée d'un côté, feu de l'autre, selon le jour ou la nuit.
C'est en fonction du jour et de la nuit. C'est la nuée le jour et le feu la nuit.
Voilà. Parce que dans toutes les traductions, c'était... Voilà, ouais. Très bien. Donc, Dieu qui est sous cette forme-là, donc ménage un passage à pied sec, vraiment, au milieu des flots de la mer qui se dressent comme des murs, aux Israélites qui sont poursuivis par les Égyptiens, conduits par le Pharaon lui-même, avec tous ses chars, etc.
Carrément.
Et Dieu referme ensuite sur eux, donc évidemment, pas sur les Israélites, mais les Égyptiens, la mer Rouge. Et donc, il intervient, je pense que Ingrid a choisi ce texte, parce que, enfin après, elle va le dire sans doute, parce qu'il intervient directement dans le monde physique, visible, mesurable. Et c'est pas tout le temps. C'est pas tous les jours. Et apparemment, on trouve cette même histoire dans le Coran, ce qui m'a beaucoup étonnée. Et donc, Thomas Romer disait qu'elle serait peut-être le récit mythique d'une guerre divine entre le Dieu créateur et l'océan primitif. Baal contre Yam. Donc, ce serait un mythe cananéen. Ça, c'est quelque chose qui avait été réglé pour la Bible hébraïque et chrétienne par la Genèse. Hein, voilà. Donc, cet épisode semble plus magique que scientifiquement vérifiable. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui ont évoqué des raisons très, très plausibles à ce phénomène, à propos de cette mer, donc qui serait pas vraiment la mer Rouge. Le texte hébreu parle de la mer des joncs, paraît-il. Voilà. Les rationalistes ont cherché une explication scientifique. Il y a un phénomène dû au vent qui pourrait avoir cet effet-là. Enfin, bon, peu importe. Enfin, non, ça importe, mais on va en parler, évidemment, là-dessus. C'est ce clash entre, quelquefois, des récits bibliques et des expériences scientifiques. Comment concilier foi et science? Est-ce que croire nous empêche de penser? Si la science est observée, expérimentée et dupliquée. Évidemment, ce n'est pas du tout la démarche d'un croyant ou d'une croyance, bien sûr. Et finalement, c'est quand même une longue histoire de conflits, d'incompréhension depuis Galilée. Bon, alors à ce moment-là, toujours quelqu'un de bien intentionné cite « Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup en rapproche ».
N'est-ce pas ?
Alors ça, ce n'est pas de Louis Pasteur, comme tout le monde croit, et moi, en angliciste que je suis, c'est de Francis Bacon. Yeah. Voilà. Et alors, ce qui m'a amusée, j'ai juste fait une petite recherche sur quelques scientifiques connus, mais dépassés maintenant, oui, mais à quel point c'était compliqué pour eux. Newton, bon, lui, il considérait Dieu comme le créateur suprême, son existence était indéniable, et ce qui nous est la preuve, si preuve, on pouvait employer ce terme, en fait, preuve entre guillemets, c'était la grandeur de la création. Donc, voilà. Darwin était agnostique, mais il n'a jamais voulu se dire athée. Parce qu'il disait, de toute façon, je n'ai pas de preuve de la non-existence, pas plus que de l'existence. Et Einstein se disait non-croyant religieux, j'aime beaucoup aussi cette formulation. Ouais. Donc, il se tortillait beaucoup, tous ces messieurs, tous ces savants.
Mais un peu comme nous, en fait. Hein.
Un peu comme nous, tout à fait.
On se tortille beaucoup avec ça.
Et on n'a pas de certitude non plus.
Absolument pas.
Voilà.
Et je crois que c'est heureux de ne pas avoir de certitude. Mmh, ça permet de continuer à chercher.
Tout à fait. de démarches propres à la foi, telles qu'on la conçoit nous, en tout cas,
exactement.
Et à la science.
Oui, oui, oui. Et puis, on ne peut pas... Enfin, on va voir, mais je pense qu'on ne peut pas séparer les deux.
Non, c'est sûr.
Alors, pourquoi ce texte-là est pas un autre? On aurait pu en choisir plein parce que des trucs improbables dans la Bible, il y en a à toutes les pages. mais celui-là, parce qu'il est assez emblématique, je dirais. Et puis parce que souvent, part du présupposé que toute cette histoire de l'Exode est vraie.
Mmh, oui.
Puisqu'elle est fondatrice pour le peuple juif, Israël, en fait, oui. Pour Israël.
Mmh,
mmh. Et c'est toute la question qu'il y a derrière. Est-ce que c'est oui. vrai ou est-ce que c'est pas vrai mais...
Est-ce que le pharaon était si intéressé par
par trois bonhommes de... Voilà. Voilà. Mm. Enfin bref, lisons le texte.
Allez, voilà, voilà.
Donc Exode 14. Le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi cries-tu vers moi ? Parle aux Israélites et qu'ils partent. Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. » Les Israélites entreront au milieu de la mer, sur la terre ferme. Quant à moi, je fais en sorte que les Égyptiens s'entêtent pour qu'ils y entrent derrière eux. Je me glorifierai au moyen du Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses attelages. Ainsi les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié au moyen du Pharaon, de ses chars et de ses attelages. » Le messager de Dieu qui allait devant les troupes d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit de devant eux et se tint derrière eux. Elle vint entre les troupes de l'Égypte et les troupes d'Israël. Elle était nuée et ténèbres et elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Alors Moïse étendit sa main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les Israélites entrèrent au milieu de la mer sur la terre ferme. Les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon, ses chars et ses attelages entrèrent après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, le Seigneur regarda les troupes de l'Égypte depuis la colonne de feu et de nuée, et il frappa de panique les troupes de l'Égypte. Il enleva les roues de leurs chars, il ne les conduisait plus qu'avec difficulté. Les Égyptiens dirent alors, « Fuyons pour échapper à Israël, car c'est le Seigneur qui combat l'Égypte pour eux. » Le Seigneur dit à Moïse, « Étends ta main sur la mer, les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leur attelage. » Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer revint à sa place habituelle. Les Égyptiens s'enfuirent à son approche, et le Seigneur se débarrassa des Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et recouvrirent les chars, les attelages, et toute l'armée du Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites. Il n'en resta pas même un seul. Mais les Israélites marchèrent sur la terre ferme au milieu de la mer. Les eaux étaient pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte, et le peuple craignit le Seigneur. Ils mirent leur foi dans le Seigneur et en Moïse, son serviteur.
C'est magnifique.
Extraordinaire.
On a envie d'y croire. Hein?
Ah ben, complètement.
Je me souviens de l'avoir dessiné à l'école biblique.
Mais oui. tout le monde l'a dessiné, tout le monde a vu... On a fait des films.
Bien sûr, bien sûr. C'est spectaculaire.
C'est spectaculaire.
Ouais, ouais. Alors là, on voit que Dieu donne des pouvoirs physiques à Moïse, finalement. Il lui donne un bâton, qui serait un bâton magique, un peu comme celui d'Aaron. Il hypnotise pratiquement ces braves Égyptiens qui, contre toute logique, se précipite à un endroit où il se dit... Enfin, voilà, ça paraît complètement aberrant. Donc, ça fait penser un peu à ce que certains charlatans, enfin, peut-être pas des charlatans, je ne sais pas, des gens qui se sentent inspirés, voilà, font des spectacles, etc. Est-ce que c'est de cet ordre-là? Est-ce que Dieu peut donner des pouvoirs physiques à des humains, déjà?
Merci pour ta question, Babette. Voilà. Je suis contente d'être venue.
Est-ce qu'il y a du surnaturel? Non, mais c'est compliqué comme question.
C'est très compliqué. En fait, alors, dans le texte biblique, Moïse agit effectivement avec un bâton, mais... L'initiative vient de Dieu.
Oui, tout à fait.
Et moi, j'arrive pas à voir dans ce récit une réalité réelle, historique,
et scientifique.
Voilà.
Encore moins, oui.
Clairement, le langage est symbolique et théologique.
Oui.
Alors, il y a deux lectures qui existent. Donc, une lecture religieuse classique qui dirait que le miracle est un acte direct de Dieu dans l'histoire. Et le bâton est un signe d'autorité divine et pas un objet magique.
D'accord.
Justement.
Oui.
Et puis après, on a une lecture rationaliste, ou qu'on pourrait appeler, qu'on appelle chez nous, historico-critique, qui dit qu'en fait, voilà, ce récit utilise un langage mytho-poétique pour exprimer une expérience fondatrice, qui est la libération d'Israël. Et puis, d'un autre côté, l'endurcissement du cœur du pharaon décrit une dynamique psychologique et politique. Et c'est pas une énergie bizarre ou de l'hypnose, en fait.
D'accord. Voilà. Je comprends.
Dans l'Antiquité, dire que ces événements décisifs ça venait de Dieu, c'était une façon de dire qu'en fait, l'histoire, elle a un sens.
Oui.
Et en fait, tout le temps, il va falloir chercher le sens de l'histoire.
Je comprends.
Voilà.
Mmh. Oui, c'est beaucoup plus clair comme ça. Donc, cette colonne de nuée qui part de la tête du cortège israélite à l'arrière, voilà, qui est vue donc comme une nuée obscure le jour et une lumière la nuit. Là, moi, ça me tenterait que ce soit proche d'un phénomène physique connu, tu vois.
Ouais.
Je sais pas, on peut voir ces espèces
des tourbillons.
Voilà. Et puis, apparemment aussi, les nomades avaient des systèmes de signalisation comme ça, avec les bras zéro, pour savoir comme des balises. Est-ce que ça peut vouloir juste dire ça, ou est-ce que de toute façon, on est encore. Là aussi, peut-être que les termes aussi du texte, nuée et lumière, ne sont pas, sont plus symboliques que.
Alors, il y a plusieurs interprétations possibles, mais c'est toujours pareil.
J'imagine,
hein.
Oui.
Dans l'interprétation théologique, cette nuée, c'est le symbole de la présence divine, ce qu'on va appeler la Shekinah dans le.
C'est celle qui vient en haut de la montagne aussi.
Qui vient en haut de la montagne, qui est aussi là dans la tente, en fait.
Oui.
C'est cette espèce de. Il y a toujours une fumée. Et qui dit que finalement, Dieu accompagne.
D'accord.
Dieu est là. Dans une lecture plutôt historico-symbolique, on peut effectivement se souvenir du système de signaux de caravane, puisque. C'était avec des feux, des fumées. Et puis, c'est aussi une pratique qui est effectivement attestée chez les peuples nomades.
Voilà.
Et puis, mais ça peut être aussi un phénomène naturel possible.
Ah, voilà.
Alors, certains ont évoqué des tempêtes de sable ou des feux de camp massifs.
Ah oui.
On peut chercher plein de choses.
Bien sûr.
Ou des phénomènes lumineux atmosphériques.
Et oui, tout à fait. Oui, parce qu'on est quand même dans un lieu assez...
Oui. Alors, donc voilà, il y a plusieurs, à chaque fois, suivant comment on va lire les textes, on peut lire de façon différente. Mais ce qui me semble important, là, pour moi, effectivement, en tant que pasteur, croyante, je vais pas. J'ai du mal à aller chercher la lecture. Comment dire ?
Littérale.
Littérale.
Oui,
voilà.
Oui.
Mais je vais surtout à voir. Que vise le texte ?
Oui.
Et il y a, pour moi, derrière une signification religieuse et pas une description.
Bien sûr. Scientifique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle reste justement, elle veut rester proche du rationnel.
Oui.
C'est ça que je trouve intéressant, quoi. C'est pas du grand n'importe quoi.
Non. Des choses qui peuvent se. Effectivement, qui peuvent se produire.
Tout à fait, tout à fait. Alors, pour rester dans cette veine-là, effectivement, beaucoup de gens ont dit qu'il y aurait un phénomène bien connu qui se serait passé, qui s'appelle donc, je crois, Wind Set Down, voilà. Ouais. Donc, c'est au niveau du lac de Mazalé. Ils ont fait des études de simulation par ordinateur, et voilà la science, donc, et qui montre qu'un vent d'est supérieur à 100 km/h, qui souffle pendant 12 heures, pourrait créer une zone à sec de 3 km de long et 5 de large.
Ouais, voilà, c'est énorme.
C'est énorme, oui. Et ce passage pourrait se maintenir ouvert pendant 4 heures. Donc ça, c'est intéressant. Mais est-ce que pour autant, ça exclut une cause première ? Non.
Non.
C'est où, là où peut-être on va arriver, après notre chanson réglementaire, au cœur du sujet. C'est-à-dire que, voilà, est-ce que c'est ce souffle qui a appelé Dieu et qui a déclenché cette cause-là ? Et est-ce que le souffle est Dieu ? Est-ce que le vent est Dieu ? Est-ce que le vent est... Voilà. Alors, je ne sais pas comment tu l'articules. Voilà.
Sur ce vent-là, alors j'ai lu des choses très rigolotes de chercheurs qui disaient que si ce vent-là soufflait réellement comme ça, non seulement il aurait emporté l'eau, mais en plus il aurait emporté les gens.
Oui, ça, oui c'est vrai que je n'avais pas du tout pensé à ça. Tout à fait.
Et qu'en fait, ça n'aurait pas pu. Enfin, ils n'auraient jamais pu traverser tranquille.
Non, c'est sûr. Je comprends.
Voilà.
Je comprends aussi, oui, tout à fait.
Alors, c'est vrai que le texte hébreu parle de Yam Souf.
Oui.
Pour, donc là, c'est la... parce qu'on parle de la mer...
Donc, Yam, c'est l'océan primitif, c'est ça.
Yam Souf.
Oui,
c'est le,
voilà.
Et on a souvent traduit par mer rouge, mais c'est plutôt la mer des roseaux, donc c'est probablement plutôt une zone marécageuse du delta du Nil.
Voilà, c'est ça.
Et donc des hypothèses ont été proposées. Avec ce fameux wind set down, ce vent très fort qui repousse l'eau et qui découvre le sol. Et donc ces simulations pendant plusieurs heures qui pourraient ouvrir un passage temporaire. On a des lieux possibles de ce truc-là. Donc le lac de Tanis ou les lagunes du delta du Nil. Et effectivement, dans certaines zones peu profondes, il y a des passages temporaires qui peuvent apparaître. Alors, il y a eu plein d'idées là-dessus, comme un banc de sable qui serait apparu. Mais quelles que soient les hypothèses qu'on va mettre derrière, elles ne prouvent pas le récit.
Non, bien sûr.
En aucun cas.
Non.
Mais je crois qu'elles montrent plutôt que c'est pas physiquement impossible.
Ben voilà.
C'est comme l'histoire de la nuée, quoi. C'est pareil. C'est pas physiquement impossible.
Voilà.
Puisque la Bible mentionne le vent à plein de reprises. Même le texte dit, l'Éternel refoula la mer par un vent d'est violent toute la nuit. Donc, je veux dire, ça peut être
c'est
complètement tangible, quoi.
Absolument. Je trouve que c'est la métaphysique qui se cache derrière la physique. Ça, je trouve ça fort.
C'est extraordinaire. Parce que, du coup, ce miracle pourrait vraiment passer pour un phénomène naturel.
Tout à fait.
Complètement
à fait.
Naturel.
Oui.
Mais peut-être qu'ici, il faut s'autoriser une réponse un peu plus longue et dire que ce récit n'est probablement pas un récit historique, mais un récit mythologique.
Mythologique, absolument.
Et ces récits ont été donc compilés entre, on va dire, le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que c'est soit pendant ou après l'exil à Babylone, à un moment où Israël va chercher à construire son identité.
Bien sûr.
On pense aujourd'hui qu'il a pu effectivement exister un noyau historique réel, mais il faut avoir bien dans la tête qu'il y a aucune trace, ni historique, ni archéologique, d'un exode de milliers de personnes dans le désert.
Bien sûr.
Même s'il y a des gens qui cherchent encore.
Qui cherchent encore les moyeux des roues.
Des roues, il y en a qui, apparemment qui trouvent.
Parce que, il doit y en avoir, forcément.
Il doit y en avoir.
Bien sûr.
Et ce récit de la mer se construit de manière très élaborée. Il ressemble à une mise en scène cosmique.
Tout à fait.
Il y a les eaux qui se séparent, le peuple qui passe, les ennemis qui sont engloutis. Et ça rappelle vraiment le thème, je dirais, le thème biblique de la création.
Oui.
Où Dieu maîtrise les eaux du chaos
dans
la Genèse. Alors, je dirais que ce récit, du coup, montrait que Dieu, finalement, recrée son peuple en le faisant passer à travers les eaux.
Oui.
Et on peut le rapprocher de récits, de mythes qui sont déjà plus anciens. Et dans les mythologies du Proche-Orient, on trouve souvent un dieu qui combat la mer chaotique. C'est ce que tu disais au début. Par exemple, ce dieu Baal qui combat la mer Yam dans les mythes cananéens. Et donc, ce thème est appelé « combat contre le chaos primordial ».
Ah oui, donc ça c'est intéressant. Ouais.
« Combat contre le chaos primordial ». Et certainement que les auteurs bibliques ont utilisé cette image pour dire que le dieu d'Israël domine les forces du chaos.
Voilà une première articulation, entre Dieu et la nature, en tout cas, telle qu'elle est. Parce qu'on dit que le temps, l'espace, la matière, l'énergie sont présents de toute façon.
Oui.
On va peut-être écouter Vent d'Orient, pour vous laisser méditer ces quelques phrases.
Fauna mettre les compteurs à zéro. On y va tout droit, on sait pas où ça va. C'est l'article 22, chacun se débrouille comme il peut. Est, ouest, uni, oublie, on n'est pas arrivé. Économie bloquée, l'écart s'est creusé sans humanité. Il y en a un qui a trop, l'autre qui n'a pas assez.
Donc voilà, Florent Pagny, vent d'Orient, puisque nous parlions de ce fameux vent d'Est-là, supérieur à 100 km/h, qui expliquerait beaucoup de choses pour la mer Rouge. Alors, pour s'approcher un peu plus du cœur du sujet, est-ce que Dieu a besoin de l'homme pour intervenir dans le monde sensible ? Il reste caché dans la colonne, là. Hein. C'est Moïse qui fait le job.
Tout le temps,
absolument. Et bon, au début de la Genèse, évidemment, l'homme n'était pas créé, donc voilà. Et alors là, on arrive à cette grande question du créationnisme ou pas. Hein, voilà. Est-ce que l'origine du monde est explicable et expliquée par la science seule ou pas ? Alors, j'avais trouvé une référence sur la première loi de la thermodynamique, qui, donc, c'est la loi de la conservation de l'énergie. C'est un principe de physique qui affirme que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Donc là, Dieu est bien pratique.
Carrément.
Puisque Dieu crée tout au début du temps, ça confirme cette loi. Et ce Big Bang aussi que certains agnostiques ou athées brandissent pour contredire le récit de la Genèse, on n'a pas pu le présenter autrement que comme le passage du néant à l'être, donc une naissance au sens propre, et la science, ça ne sait pas l'expliquer.
Absolument.
Voilà. Donc...
Et toujours pas. En tout cas, dans la Bible, Dieu agit souvent par médiation humaine. Je dis souvent, mais c'est...
Sauf avant
qu'il ait quelqu'un à se mettre sous la dent.
Voilà.
Donc, on a Moïse, les prophètes, les rois, enfin, bref, on pourrait parler de Jésus aussi. Hein.
Oui, bien sûr.
L'idée, c'est que l'humain devient coopérateur de l'action divine. Et cette question rejoint celle de la création. Alors, la science décrit l'évolution de l'univers depuis le Big Bang, mais elle ne répond pas forcément à la question métaphysique. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Et la première loi de thermodynamique dit que l'énergie se conserve à l'intérieur de l'univers, mais elle ne décrit pas l'origine de l'univers lui-même.
Non.
Et je crois que c'est cette question, finalement, à laquelle la foi peut répondre. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
Oui.
Et là-dessus... Chacun va avoir sa propre réponse.
Tout à
c'est
fait.
Ça qui est magique.
Et personne n'a de preuves.
Non.
Tout le monde n'a que des hypothèses.
C'est que des hypothèses.
C'est ce qui est, je trouve, parce que quand on parle des scientifiques, ils nous regardent un peu de haut. De dire, ça n'est pas raisonnable parce qu'elle n'est pas prouvée. Mais ce qu'il y avait avant le Big Bang n'est pas non plus prouvé. Et puis le Big Bang est une des hypothèses parmi d'autres.
Oui.
Après ce que j'ai compris, maintenant, battu en brèche en plus.
Il y a d'autres hypothèses.
Donc, voilà. Alors, ce qui me paraît important, justement dans le verset 27 de ce texte, qui essaie d'expliquer un peu le sens de la foi par rapport à la compréhension du monde. Parce que, évidemment, on essaie de comprendre le monde, on essaie tout le temps, les humains, hein, voilà. Ouais. Et là, c'est le miracle qui provoque la foi. Alors que très souvent, quand on a une démarche scientifique, c'est l'expérimentation qui vous convainc d'un certain nombre de choses. Et c'est pour ça que j'ai trouvé cette phrase de Jean-Paul II, que je crois que tu aimes bien aussi, qui dit donc la foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité.
C'est magnifique.
Oui, je trouve que c'est assez... Même c'est très tolérant de le dire comme ça, je trouve.
C'est très. Mais c'est juste vrai, quoi.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est-à-dire que la science, c'est la recherche de la vérité aussi, forcément. Oui. On ne cherche pas juste pour chercher. Et donc, c'est lié à l'observation des phénomènes du monde visible, avec des expériences reproductibles, bien sûr. Mais enfin, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir au moins deux fenêtres sur le même monde?
C'est même heureux d'en avoir plusieurs. Mm. Effectivement, voilà, dans le récit biblique, la foi vient après l'événement. Mm. La science, elle cherche à savoir comment fonctionne le monde. Mm. Et la foi cherche quel sens a ce monde. Oui. Et ce n'est pas du tout la même démarche, en fait. Et je crois qu'on a vraiment besoin de ces deux démarches.
Bien sûr.
On ne peut pas les opposer.
Non.
Elles sont vraiment hyper complémentaires. Et je trouve que la formule de Jean-Paul II, elle est fabuleuse parce que ça nous permet d'avancer, quoi.
Oui, absolument.
Ça nous permet d'avancer.
Et de garder un peu d'espoir.
Et de garder...
J'ai trouvé d'espérance.
Oui, puis je ne sais pas comment dire ça, mais quelque chose de léger.
Oui, voilà. Oui.
C'est plus léger.
C'est plus léger, tout à fait, effectivement. Il y a moins d'absurdes, moins de termes. Oui, c'est vrai. Alors, c'est une question qui est double. Hein. C'est-à-dire, est-ce que la science se fourvoie quand elle prétend nier l'existence de Dieu? Parce qu'elle ne peut pas nier l'existence de Dieu. Parce qu'avec ses propres critères, elle ne peut ni rien affirmer, ni rien confirmer, puisqu'il n'y a pas de preuves. Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que la foi, de son côté, et la religion en particulier, ne s'égarent-elles pas quand elles veulent se prouver et s'éprouver par la raison? C'est un vaste débat, mais c'est une tentation que la science a et que la religion a aussi, je trouve, la foi
je
aussi.
Crois. Ouais. Je crois vraiment que la science ne peut ni prouver ni réfuter Dieu pour une raison simple, c'est que Dieu n'est pas un objet mesurable.
Et oui.
La science traite de phénomènes observables, elle fait des expériences reproductibles, quand Dieu, lui, relève de la métaphysique, de la philosophie, de la théologie. Et du coup, la science devient idéologique si elle affirme que Dieu n'existe pas.
Mmh, tout à fait.
Et la religion devient, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, si elle veut prouver Dieu par des équations, c'est quoi? C'est les scientistes.
C'est déviant, moi.
C'est déviant, c'est complètement déviant.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais.
Et beaucoup de penseurs adoptent aujourd'hui une position de complémentarité. Et ça, c'est heureux. Dire que voilà, la science explique, elle a une méthode, elle observe, et la foi, elle cherche le sens, il y a une réflexion spirituelle, il y a une transcendance. Donc, c'est deux choses qui sont à la fois opposées et en même temps complémentaires. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a des scientifiques croyants qui ont existé.
Oui,
comme
bien sûr.
On parlait de Newton ou Georges Lemaître, qui est le père du Big Bang. Je crois vraiment que croire ne signifie pas renoncer à penser.
Non.
La foi répond vraiment à des questions que la science ne peut pas se poser. Pourquoi l'univers existe? Pourquoi l'être humain cherche la vérité? Pourquoi l'histoire a un sens?
Pourquoi la mort?
Pourquoi la mort?
C'est vrai.
La science va répondre à comment ces phénomènes-là se produisent. Mais ces deux approches peuvent entrer en conflit lorsqu'elles prétendent remplacer l'autre. Mais elles peuvent aussi être deux regards différents sur la même réalité. Je crois que c'est ça qu'il faut garder.
Oui, tout à fait. On va conclure là-dessus, parce que je crois que c'est... on n'ira pas, on n'aura pas mieux.
C'est une très vaste question.
Oui, qu'on a à peine effleuré, effectivement.
Voilà.
Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés et au mois prochain.
À bientôt.
À bientôt.
« C'était La Bible, parfum de scandale, à retrouver en podcast, en écoute à la demande ou téléchargement gratuit sur radiofmplus.org.